Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien de ce 9 novembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne. Bon jeudi, Mathieu Tessier.
Bon jeudi, bon jeudi.
Et puis, jeudi. À part de cela...
Ah, vous savez, moi, les jeudis, c'est cela.
Il y a tellement ça de choses, en quoi? Fait, que...
Ah, il s'en passe des choses, les jeudis.
Ah oui?
Ah oui.
Comme quoi? Vous m'intriguez.
Ah mais on va garder ça comme ça.
Tiens, ah oui, vous ne voulez pas vous ouvrir plus qu'il faut.
Non, c'est pour ça que je suis de ce bord.
Parce que les auditeurs s'intéressent à vous. Oui, mais quand même, quand vous avez la parole, il faut en profiter un peu.
Oui, alors c'est pour ça que je fais les éphémérides.
Oui, alors vous voulez tout de suite passer aux éphémérides. On vous écoute, mon cher mystérieux.
De vous intéresser à ma personne.
Ben mais oui.
C'est tellement passé de choses intéressantes le 9 novembre. Il n'y a pas de journée mondiale répertoriée. Par contre, j'ai trouvé qu'en France, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et je croyais que c'était une bonne idée d'en faire mention.
Le harcèlement scolaire, c'est quoi ça? De l'intimidation?
Exact.
Ouais, ah oui? Ouais.
C'est comme ça qu'ils ont utilisé... C'est comme ça qu'ils ont appelé l'harcèlement ou the bullying.
Ah bon? Ben oui, c'est important.
Ben oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi on n'en fait pas une journée internationale, d'ailleurs.
Ça va peut-être venir un jour.
Tout à fait.
Il faudrait en parler avec Jasmin Roy, qui a une fondation et c'est une cause qui lui tient vraiment à cœur.
Bonne idée.
À suivre.
9 novembre 1620, les pèlerins anglais du Mayflower atteignent Cape Cod et ils créeront le Massachusetts. En 1799, à Paris, le coup d'État du 18 Brumaire remplace le régime du directoire par une commission formée de CIS, Roger Ducos, et Buonaparte, ce dernier étant premier consul. En 1937, à Montréal, l'hebdomadaire communiste Clarté est fermé par la police de Maurice Duplessis qui étreigne ainsi la loi dite du cadenas. Nous avons en 1942, j'aime bien cette histoire, déposé la veille par un sous-marin à New Carlisle, l'agent allemand Werner Jonowski est arrêté en Gaspésie et il passera dans le camp allié.
On en sait plus sur vous, étant donné que vous aimez cette histoire.
Il y en a une autre qui m'intéresse beaucoup. En 1965, une fusée américaine lance le satellite canadien Alouette 2. Québec annonce la vente de vin dans les épiceries et dépanneurs en 1978, marquant la fin du monopole de la régie des alcools.
Oh, ça va faire bientôt 50 ans.
C'est fou, hein?
C'est fou, certain.
Un petit peu moins, j'ai 40, je suis né en 77.
OK, d'accord. Donc, 40 ans en 78. Oui, oui, en 2018, 40 ans, c'est vrai.
Je suis déjà rendu à 50 ans.
Oui, j'ai donné 10 ans de plus à cette loi.
Est-ce que c'est parce que je fais 10 ans de plus aujourd'hui?
Pas du tout.
1989, après des semaines de manifestations amorcées à Leipzig, le régime communiste se rend à l'évidence et renonce à tirer sur les fuyards. Une marée humaine franchit ainsi le mur de Berlin. C'est la chute du mur de Berlin en 89. 1996, au bout de 30 heures, la précipitation dans la région de Montréal atteint 150 mm, provoquant des inondations. Je pense qu'on aurait eu de la neige aujourd'hui, si... parce qu'il fait quand même assez froid ce matin.
Oui, ça serait comme entre deux, de la neige fondante,
de la
je dirais.
Neige. Ça serait beau.
Je sais pas.
De la pluie d'Agadou, non? J'ai bien hâte.
Non.
En 2006, vous voyez, je vous donne des bribes d'informations comme ça.
2006, demain, vous allez être heureux comme un roi.
Je sais, j'ai bien hâte. À Saint-Hyacinthe, l'hôpital Honoré-Mercier relève de ses fonctions le directeur à la suite de la mort de 10 patients due à une épidémie de C. difficile. En 2009, on célèbre ainsi donc le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin en présence de nombreux dirigeants étrangers. Et deux cosmonautes en 2013, deux cosmonautes russes, transportent le flambeau des Jeux de Sochi à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Et pour ce qui est des naissances, l'écrivain russe Ivan Turgenev, en 1818, et le premier ministre du Québec, Joseph-Adolphe Chapleau, qui était né, lui, en 1840. Et pour ce qui est des décès, nous avons le chanteur et comédien, ou regretté, même Yves Montand,
ah oui,
qui est décédé en 91. Charles de Gaulle, le militaire et politicien français, est décédé en 1970. Le premier ministre anglais, Neville Chamberlain, en 1940. Et le poète français, Guillaume Apollinaire, qui était né, lui, en 1880, nous a quittés en 1918.
Des grands personnages.
Tout à fait.
Merci beaucoup, monsieur.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse, exclusif, finances de la Ville de Montréal, un trou de 358 millions. La nouvelle administration Plante dit avoir découvert un important manque à gagner dans les finances de la Ville de Montréal. On part avec plusieurs prises contre nous, prises que nous a faites Denis Coderre, a déploré hier Benoît Doré, président du comité exécutif. Art, affaire Sylvain Archambault, syndicats et diffuseurs font le point. Des artistes critiquent les propos de Sophie Préjean, présidente de l'Union des artistes. La chronique d'Yves Boisvert, Richard Bergeron, qui perd, gagne. Et dans la section pause, repas, quand le VG fait saliver. Un trou de 358 millions dans les finances. Le premier budget de l'ère Valérie Plante s'annonce difficile. Le président du comité exécutif, Benoît Doré, dit avoir découvert un manque à gagner de 358 millions dans les finances de la Ville de Montréal. Trou que Projet Montréal devra combler en un mois à peine, et ce, sans augmenter les taxes au-delà de l'inflation. Ça va être difficile. On ne peut pas trouver 358 millions du jour au lendemain comme ça avec une formule magique, prévient Benoît Doré en entrevue avec la presse. Élu dimanche soir, celui qui assurera la présidence du comité exécutif de l'administration Plante s'est attaqué dès lundi matin à la préparation du budget 2018. Il s'attendait à une lourde tâche, mais dit avoir été renversé d'apprendre l'existence d'un important manque à gagner mardi matin lors d'une rencontre avec le directeur général de la ville, Alain Marcoux. Différents éléments auraient contribué à creuser ce trou dans les finances de Montréal, à commencer par les récentes ententes sur les régimes de retraite qui coûteraient beaucoup plus cher que prévu. D'importantes dépenses étaient également payées à même les surplus anticipés. Or, 2017 risque de se terminer sans aucun surplus, forçant la nouvelle administration à intégrer ces dépenses dans son budget courant. On part avec plusieurs prises contre nous, prises que nous a faites Denis Coderre, Benoît Doré, donc, qui dit cela, président du comité exécutif. Hier, au moment de tirer sa révérence, Denis Coderre a assuré que son administration avait remis de l'ordre dans les finances de Montréal. Ce trou représente 7 % du budget de 5,2 milliards de la ville. S'il devait être absorbé par les Montréalais, il faudrait augmenter les taxes de plus de 10 % d'un seul coup. C'est hors de question, tranche Benoît Doré. Pour combler le manque à gagner, l'administration Plante Doré compte plutôt miser sur l'expertise des employés de la ville, chercher des économies d'échelle et tenter d'étaler certaines dépenses dans le temps. En page 5 de la presse, un Denis Coderre, les larmes aux yeux. Vous allez me revoir. Denis Coderre fait ses adieux. Un au revoir, pas des adieux. Denis Coderre a tiré sa révérence hier après 4 années en politique municipale. Il ne sera plus maire ni même politicien, mais il prévient qu'il ne compte pas disparaître pour autant. Vous allez me revoir, a-t-il dit en quittant l'hôtel de ville les yeux rougis. Voici ce que le 44e maire de Montréal avait à dire à l'occasion de son départ. Je vous lis quelques bribes de cet article. Sur sa défaite, on ne peut pas se faire du mal continuellement à se demander pourquoi. Sur son seul mandat, le poste de maire est un poste éjectable, temporaire. Bien que son règne ait été de courte durée, Denis Coderre se dit honoré d'avoir siégé à la tête de Montréal. Sur son avenir, je vais me retrouver, me refaire une santé, me reprendre en main. Sur les médias, je n'irai pas dans les médias, ne vous inquiétez pas. Sur son bilan, on a mis de l'ordre dans la maison. Sur le retour des expos, je vais tout faire pour que les expos reviennent. Sur Valérie Plante, Mme Plante pourra compter sur moi au besoin. sur l'avenir de son parti, je ne jouerai pas à la belle-mère. Sur lui-même, déjà de m'endurer, c'était quelque chose. Égal à lui-même, Denis Coderre a fait preuve d'autodérision à quelques occasions durant sa conférence de presse. En remerciant ses collaborateurs pour leur travail depuis 4 ans, il a glissé que déjà de l'endurer, c'était quelque chose, puis en évoquant le fait qu'il comptait se consacrer à sa famille qu'il a négligée depuis 4 ans. « Je ne suis pas sûre qu'ils vont être contents de m'avoir tous les jours. » Mais ça, c'est une autre histoire. Un entraîneur de patinage artistique qui travaille avec de jeunes athlètes d'élite sur la rive sud a été arrêté pour avoir sollicité des services de prostitution d'une adolescente qu'il croyait âgée de moins de 16 ans, a appris la presse. Sans le savoir, l'entraîneur Thierry Ivars communiquait en fait avec des policiers du SPVM qui menaient une opération sous de fausses identités sur le web afin d'épingler les clients de prostitution juvénile. Il a été arrêté et devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Montréal sous 2 chefs d'accusation, selon nos informations. Plusieurs clients auraient été arrêtés en octobre dans le cadre de la même opération. Joint par la presse, le commandant Michel Bourque, responsable du dossier, a refusé de préciser leur nombre et leur identité avant les comparutions. Le SPVM devrait dresser un bilan officiel sous peu. André Boisclair, arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, l'ancien chef du Parti québécois a été arrêté à Québec dans la nuit de mercredi à jeudi et devrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies, selon le 98,5. Vers minuit 35, un accident a été rapporté au service de police de la ville de Québec, alors qu'un véhicule a percuté un lampadaire devant le 735 rue Saint-Joseph. Cette rue est la principale artère commerciale du quartier Saint-Roch à Québec, considéré comme un pôle important du centre-ville. Les policiers arrivent alors sur place et procèdent à l'arrestation du suspect pour conduite avec des capacités affaiblies, a expliqué à la presse le porte-parole du SVPQ, Étienne Doyon. Au poste de police, le suspect a refusé de souffler dans l'appareil alcotest. Le SPVQ ne confirme pas lui-même l'identité du conducteur, un homme de 51 ans. Quelque 260 000 entreprises québécoises seront tenues de se doter d'une politique pour contrer le harcèlement sexuel au travail. Les employés qui sont victimes d'inconduite sexuelle à leur emploi auront sous la main une définition de ce qui constitue une inconduite et une procédure claire décrivant explicitement le cheminement pour porter plainte. L'immunothérapie est la nouvelle arme de prédilection des médecins contre certains cancers. Or, des chercheurs viennent de montrer que son efficacité pouvait être sapée par de simples antibiotiques. Et dès janvier, un nouveau laboratoire sera créé au CHUM pour en savoir plus sur cette découverte qui risque de changer les pratiques médicales. Imaginez que vous êtes médecin, votre patient atteint d'un cancer et affaibli, a contracté une petite infection urinaire. avant de lui faire subir un traitement anticancéreux éprouvant, hop, vous lui prescrivez un antibiotique pour qu'il soit dans la meilleure forme possible pour sa thérapie. Le raisonnement est logique et abondamment appliqué. Pas moins d'un patient sur cinq atteint du cancer consomme des antibiotiques. Or, la stratégie est peut-être à revoir. Selon une étude publiée cette semaine dans la prestigieuse revue Science, les antibiotiques peuvent faire dérailler les traitements d'immunothérapie, technique de pointe utilisée depuis quelques années qui remplace la chimiothérapie contre certains cancers avancés du poumon, du rein et de la vessie.
Tu m'as bouleversée, je suis plus la même qu'avant toi. Tu m'as déshabillée et je t'ai tout donné. T'es ma plus grande faiblesse et je succombe sous l'ivresse. Et je te laisse m'enivrer de tes beaux mensonges et de tes baisers. Et je te laisse faire me virer à l'envers. Mais pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond de ta mémoire. J'existe plus dans tes histoires, une figurante sans le savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Tu m'as rendu malade, je pense à toi et ça me fait mal. Je sais que tu ne m'aimeras pas plus d'une soirée sous tes draps. Mais tu m'as sur mes genoux, même si je sais à quoi tu joues. Je n'ai pas le cœur de m'avouer que quand je supplie, tu ne fais que t'amuser. Et moi je te laisse faire me virer à l'envers. Pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond de ta mémoire. J'existe plus dans tes histoires, une figurante sans savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Malgré tout, je t'oublierai, je répondrai plus à tes envies. Et quand je serai seul le matin, au moins ce sera pas dans ton lit. Je m'en mettrai sur mes pieds, je soignerai mes blessures que t'as laissées derrière toi, sans même nous revoir. Sans même nous revoir. Car pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond. J'existe plus dans tes histoires, une figurante sans savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords.
Son nom, c'est Caroline Savoie et elle nous chantait « Sans amour et sans remords ».
En une du Devoir de ce 9 novembre 2017, la dignité retrouvée. En conférence de presse au surlendemain de sa défaite, Denis Coderre a dit toute sa fierté d'avoir redoré le blason de la métropole au cours de ce mandat unique, lui qui aura finalement été un maire de transition. Alors, on voit Denis Coderre, la main qui salue et qui dit, c'est pas la main qui dit, mais Denis Coderre qui dit, c'est sûr que vous allez me revoir. Saganache combat le bilinguisme à la canadienne. CSDM, un nouveau siège social au prix d'édifices à vendre. La commission scolaire deviendrait locataire selon un projet discuté à huis clos. Exposition L'art de la photographie, un révélateur du rêve des aventuriers du Klondike, un texte de Jean-François Nadeau. Tous les rêveurs s'appellent David. Entretien avec Céline Barry, dont les 24 David ouvrent les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Printemps érable, un juge condamne le SPVM. Soccer, l'Impact choisit le français Rémi Garde. Et carbone, la Californie se tourne vers l'Europe. Le nouveau Parti démocratique milite depuis des années pour imposer la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada, mais l'idée ne fait pas consensus au sein même du caucus de députés. Parmi les opposants se trouve le Québécois Roméo Saganache, qui considère le bilinguisme anglais-français comme un symbole colonial à combattre. L'opposition de M. Saganache au projet de loi C-203 de son collègue François Choquette s'appuie sur deux arguments. L'exclusion et le colonialisme. En imposant la maîtrise de l'anglais et du français pour accéder au plus haut tribunal du pays, on barre potentiellement le chemin à de brillants juristes, notamment autochtones. Mais surtout, fait-il valoir, on officialise une vision du bilinguisme qui écarte toutes les langues autochtones. Ignorer les langues autochtones, c'est perpétuer le colonialisme, dit le député néo-démocrate. Forcée de fermer son siège social contaminé aux moisissures, la Commission scolaire de Montréal envisage de déménager ses 766 employés dans des locaux qui seraient loués à long terme sur une période de 20 ans, au coût de plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon ce que Le Devoir a appris, la plus grande commission scolaire du Québec a exclu de rénover son vieux centre administratif qui nécessite des travaux estimés, eux aussi, à plusieurs dizaines de millions de dollars. La construction d'un nouvel édifice est aussi écartée pour une question de coût, tout comme le déménagement des employés dans divers bâtiments de la CSDM, une solution jugée peu efficace car le personnel serait éparpillé. Pour financer une partie des coûts de relocalisation de son siège social, la commission scolaire envisagerait de mettre en vente une douzaine de ces bâtiments décrits comme « excédentaires », occupés par des groupes communautaires, a-t-on appris. Le sort du centre administratif contaminé aux moisissures, situé au 3737 rue Sherbrooke-Est, néanmoins évalué à 35,9 millions de dollars, incluant le terrain, est aussi incertain. La commission scolaire compte-t-elle se débarrasser de ses actifs pour payer la relocalisation? Mercredi soir, en tout cas, le Conseil des commissaires a adopté une résolution donnant le mandat à la direction de la CSDM de conclure les négociations en cours avec le propriétaire non nommé de l'immeuble que la commission scolaire souhaite occuper. La CSDM compte transmettre rapidement le dossier pour approbation au ministère de l'Éducation et au ministère des Finances, a expliqué Robert Gendron, directeur général de la CSDM, lors de la séance du Conseil. Printemps érable, le service de police de la Ville de Montréal et l'actuel chef Philippe Pichet sont sévèrement blâmés par un juge pour avoir minimisé les risques liés à l'utilisation d'une grenade assourdissante qui a fait perdre un œil à un manifestant en mars 2012. Le SPVM vient d'être condamné à lui verser 175 000 $ plus les intérêts. L'ensemble de la preuve permet au tribunal de noter chez les témoins en défense, les policiers, une forte tendance à diminuer ou même à nier le risque de l'utilisation de grenades assourdissantes, dénoncé par le fabricant lui-même, écrit dans son jugement, le juge Steve J. Remnitz. Avec les intérêts, le SPVM devra verser 230 000 $ à Francis Grenier. L'avocat de Francis Grenier s'est dit satisfait du jugement qui a tenu compte des souffrances de l'étudiant. C'est un jugement qui pourra l'aider à passer à autre chose, mais avec un œil en moins. C'était un jeune homme avec des ambitions qui aujourd'hui est limité, mentionne Maître Alain Arsenault. Le nouveau chef du NPD, Jagmeet Singh, n'est pas chaud à l'idée de se porter candidat à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription torontoise de Scarborough-Agincourt. Il n'écarte pas d'emblée l'idée car il veut rester ouvert aux conseils qu'il pourrait recevoir. En ce qui concerne les quatre élections partielles annoncées pour le 11 décembre, je suis encore ouvert aux conseils et aux arguments qui pourraient m'être présentés, notamment s'il y a une connexion sincère entre moi et les circonscriptions, mais je suis très à l'aise avec le fait que je ne détiens pas de siège, a-t-il indiqué. Et les petits et grands joueurs du numérique n'ayant pas de présence physique au Québec seront assujettis à la taxe de vente du Québec TVQ en 2018, a promis Carlos Letao, qui s'est toutefois abstenu de chiffrer à haute voix les recettes fiscales anticipées du commerce en ligne. « C'est beaucoup de sous », s'est-il contenté de dire, sourire aux lèvres, à la presse. « Si nous ne pouvons en venir à une entente avec Ottawa, le Québec n'aura d'autre choix que d'agir seul », a dit Carlos Letao, ministre des Finances du Québec. À venir à l'émission La Revue de presse du Journal de Montréal, ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. Restez avec nous dans un petit moment, donc la suite de l'émission et une chanson choisie par Mathieu Tessier. À travers les branches.
Chanson que l'on retrouve sur l'album Bleu Soleil de Charles-Antoine Gosselin, La Rive arriverait en retard. Je voulais juste annoncer que...
Le bon titre, hein, Mathieu?
Le bon titre, oui, c'est « L'hiver arriverait en retard » et non pas « La rive arriverait en retard ».
Non, malheureusement.
J'avais une poussée de poésie, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Mais l'hiver arrive demain, ça a l'air. Pas partout, mais je vais vous en parler tantôt. À la une du Journal de Montréal, le comptable du commissaire associé Forget, condamné par l'AMF, un cordonnier mal chaussé à la tête de l'UPAC. Et ce n'est pas le coupable, mais bien le comptable du commissaire associé Forget, condamné par l'AMF. Chacun son tour, n'est-ce pas? Coderre quitte la politique, on le voit saluer, nous saluer, et puis il a les yeux qui sont tournés vers le bas. Il semble attristé. Plus populaire que son mari Plekanec, Lucie Vondrakova, la femme de joueur du Canadien Tomáš Plekanec, est une actrice bien connue en République tchèque. Alors, à la une, il y a une petite faute, je crois, parce qu'on écrit la femme de joueur, mais c'est bien la femme du joueur du Canadien Tomáš Plekanec.
On dirait qu'ils ont rajouté le mot joueur à la dernière minute.
On dirait. Alors, numéro 2 de l'UPAC, il utilisait un courtier illégal. Le numéro 2 de l'UPAC, responsable de la vérification de l'intégrité des entreprises, ignorait qu'il faisait affaire avec un conseiller financier condamné pour avoir illégalement vendu des actions jusqu'à ce qu'il en soit informé par notre bureau d'enquête hier. Marcel Forget, commissaire associé aux vérifications, dirige le service de l'unité permanente anticorruption UPAC, chargé d'évaluer la probité des entreprises qui veulent obtenir des contrats publics. M. Forget confiait pourtant son rapport d'impôt et achetait des actions d'un conseiller financier, François Simard, réprimandé à au moins deux reprises par les autorités réglementaires depuis 5 ans. Adjoint du commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, M. Forget a déclaré qu'il avait découvert la situation de M. Simard grâce aux questions que nous lui avons posées à ce sujet. « Je vous remercie infiniment de m'en informer », a-t-il dit au cours d'une entrevue téléphonique. « Je n'étais pas au courant jusqu'à tantôt. » Quelques instants avant d'accepter de parler au journal, M. Forget a découvert grâce à une recherche Internet que son comptable avait été condamné à payer 1,3 million d'amendes par l'Autorité des marchés financiers en août 2017. La recherche a été, en somme, toute très simple, a reconnu le commissaire. Avant d'être condamné l'été dernier au terme de poursuites entamées par l'AMF en juin 2013 pour vente illégale d'actions, M. Simard avait également été réprimandé par la Chambre de sécurité financière pour des manquements semblables en 2012. Toutes ces informations étaient publiques. Apprenant ces faits, M. Forget a coupé sur le champ ses liens avec M. Simard, dont il ignorait tous les démêlés bien qu'il transige avec lui depuis environ 5 ans. M. Forget a reconnu avoir acheté il y a 4 ans des actions accréditives de compagnies minières par l'intermédiaire de M. Simard, qui a été condamné par la Cour du Québec pour des transactions impliquant ce type de produit. Le commissaire aux vérifications assure toutefois que ces transactions, dont il n'a pas voulu chiffrer la valeur, ont été faites dans les règles de l'art. Oui, l'hiver approche. Montréal sera frappé par le froid au cours de la nuit. Le réveil risque d'être brutal demain pour les Montréalais puisque la température chutera cette nuit d'une douzaine de degrés pour passer sous le point de congélation. Le froid se poursuivra en journée avec une température moyenne de moins 8 degrés Celsius, accompagnée de vents autour de 45 km à l'heure. Pendant qu'en Abitibi, la première tempête de neige est attendue aujourd'hui avec une bordée de 15 à 25 cm et de la poudrerie, à Montréal, en soirée, une courte averse de pluie pourrait être suivie des premiers flocons de la saison sur la métropole. Ce qui me préoccupe, c'est le refroidissement immédiat qui va suivre, alerte Régent Ouimet, météorologue à Météo Média. Ceux qui seront sur la route pourraient être surpris par la formation de verglas. Une bordée est aussi attendue cette nuit dans l'est du Québec, près du lac Saint-Jean. Dès la fin de semaine, les températures remonteront au-dessus du point de congélation, autour de 2 ou 3 degrés. Au-delà des quelques flocons qui devraient tomber cette nuit, la première bordée de neige à Montréal pourrait se produire dans une dizaine de jours. Le député Guy Ouellette et son ami Annie Trudel acceptent de collaborer à l'enquête de la vérificatrice générale sur l'AMF, même si Mme Trudel doute des capacités de la VG à mener à bien cette enquête. La vérificatrice fait des audits, des vérifications. Ce dossier en est un d'enquête. Donc, je crois que c'est le mauvais mandat à la mauvaise organisation, nous a confié Mme Trudel. Le député de Chemédé s'est abstenu de dire s'il partage l'opinion de Mme Trudel, mais a confirmé qu'il a rendez-vous ce matin avec un associé de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc. Le gouvernement canadien a prévu dépenser plus d'un demi-million de dollars pour l'inauguration de la nouvelle gouverneure générale Julie Payette, une somme considérée comme astronomique par certains. Au total, le gouvernement devrait avoir dépensé jusqu'à 650 000 dollars pour l'arrivée en poste de l'ex-astronaute et scientifique dont la grande majorité du montant était dédiée à la journée de son assermentation le 2 octobre. C'est ce que révèle le budget détaillé de l'installation de la gouverneure générale obtenue par le Journal de Montréal auprès de Patrimoine Canada. Le ministère dit toutefois que le solde final devrait être moins élevé, sans toutefois pouvoir le chiffrer. Contacté par le journal, des intervenants et élus de l'opposition ont fait le saut en apprenant le budget dédié à l'arrivée en poste de Mme Payette. Je comprends que c'est une activité très protocolaire, mais je ne connais pas de Canadiens qui se sont réveillés ce matin-là en se disant qu'ils avaient très hâte de regarder la cérémonie et qu'ils espéraient que ce soit luxueux et extravagant, ironise Carl Vallée, porte-parole québécois de la Fédération canadienne des contribuables. Selon donc les intervenants et les élus de l'opposition, 650 000 $ c'est beaucoup trop cher pour un événement auquel à peine quelques centaines de personnes ont eu le droit de participer. La cérémonie d'assermentation a toutefois été télévisée. Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada appelés à intervenir lors de l'arrivée de demandeurs d'asile par le chemin de Roxham Road à Saint-Bernard-de-la-Colle intimideraient les immigrants, allègue le groupe Solidarité sans frontières. Au cours de l'été, ce petit chemin de campagne est devenu célèbre en voyant arriver par centaines des immigrants en provenance des États-Unis. Dans un communiqué publié mardi, Solidarité sans frontières allègue que les agents de la GRC sont de plus en plus agressifs envers les personnes qui tentent de traverser vers le Canada, au point où certains migrants ont été poussés à faire demi-tour. Appelée à commenter ces allégations, la GRC a clarifié son mode opératoire à la frontière et une porte-parole a rappelé qu'il est illégal de traverser la frontière canadienne sans se présenter à un bureau d'entrée. Il s'agit d'une infraction en vertu de la loi sur les douanes. Et pour terminer, le Mousse Café situé à Baie-Saint-Paul a reçu une amende salée qui fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. La coopérative de solidarité devra payer 1 400 pour avoir peint une enseigne sur le trottoir ou la piste cyclable appartenant à la ville. L'amende est pour avoir griffonné sur le trottoir avec de la craie. C'est à l'aide de craie que les employés ont dessiné sur le trottoir de la publicité. Du côté de la ville de Baie-Saint-Paul, on assure qu'un premier avis avait été donné avant d'imposer une amende.
Elton John's et sa chanson Sorry Seems to Be the Hardest Word.
Une sauterelle incrustée dans une toile de Van Gogh, un musée du Missouri dans le centre des États-Unis a fait une drôle de découverte en étudiant au microscope, dis-je bien, un tableau de Vincent Van Gogh, une sauterelle cachée près du coin inférieur gauche de l'œuvre. Mary Schaeffer, directrice du musée d'art Nelson Atkins de Kansas City, a aperçu le petit insecte marron en étudiant le tableau « Les oliviers », peint par le maître néerlandais en 1889. Cette découverte peut s'expliquer par l'habitude qu'avait l'artiste de peindre en extérieur, où le vent faisait souvent voler insectes, poussières et brins d'herbe. Les oliviers fait partie d'une série de 18 tableaux consacrés à ces arbres et peints par Van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence en 1889 dans l'asile où il a été interné. Il est mort l'année suivante. D'ailleurs, comment ils se sont attaqués au problème, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Pourquoi le masculin devrait-il l'emporter sur le féminin? Des enseignants français s'engagent à cesser d'enseigner la règle de grammaire pouvant se résumer par la formule « le masculin l'emporte sur le féminin ». Ils espèrent que leur exemple fera école. Alors, d'où vient cette règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin? Selon les signataires qui viennent de publier les grandes lignes de leur manifeste sur le site slate.fr, cette règle adoptée au XVIIe siècle est récente dans l'histoire de la langue française et elle n'est plus nécessaire. Les enseignants soutiennent que l'objectif des promoteurs de cette règle n'était pas linguistique, mais politique. C'est un article de Sarah Champagne. Encore plus important, la répétition de cette formule auprès des enfants n'est pas sans conséquences, plaide-t-il. Ils expliquent qu'elle induit des représentations mentales qui conduisent femmes et hommes à accepter la domination d'un sexe sur l'autre, de même que toutes les formes de minorisation sociale et politique des femmes. Ce n'est pas la première fois que cette règle dite de grammaire est contestée. Il y a 5 ans, 6 000 personnes avaient signé une pétition intitulée « Que les hommes et les femmes soient belles ». Elle appelait à révolutionner les écrits, les correcteurs d'orthographe et nos habitudes en appliquant la règle de proximité. Comment appliquer la nouvelle règle proposée par les signataires du manifeste? Selon cette réforme, l'adjectif peut notamment s'accorder en genre avec le nom commun le plus proche, c'est la règle de proximité. Il serait donc possible de choisir d'écrire « femmes et hommes sont »,« femmes et hommes seront gagnants », où hommes et femmes seront gagnantes. Les signataires du manifeste déclarent enseigner désormais la règle de proximité ou l'accord de majorité ou l'accord du choix. Ils appellent les enseignants et enseignantes partout dans le monde à renouer avec ces usages. Ils appellent à ne pas sanctionner les énoncés s'éloignant de la règle enseignée jusqu'à présent. Et il demande au ministère de l'Éducation, aux médias, au monde de l'édition, voire à tous les citoyens et citoyennes francophones, d'en faire autant. Cette mesure est-elle déjà mise en application? Dans les médias, il existe des initiatives plus ou moins développées où cette règle du masculin, d'abord, tend à tomber. C'est le cas sur le site Mademoiselle, dont la rédactrice en chef, Clémence Bodoc, est signataire du manifeste. Chez Charlie Hebdo, l'accord de proximité est appliqué par quelques personnes de la rédaction, dont Gérard Biard, le rédacteur en chef. Interrogé par Slate.fr, il a expliqué que la langue dit ce qu'est une société. « Je ne vois aucune logique au fait que le masculin l'emporte. Je considère qu'on doit veiller à ce que les mots qu'on emploie soient le plus possible proches de la société qu'on entend promouvoir », a-t-il fait valoir. Qu'en pense l'Académie française? L'Académie a réagi la semaine dernière au grand débat de l'écriture inclusive, la qualifiant d'aberration et affirmant que la langue française se trouve désormais en péril mortel. Les académiciens prédisent un recul de la francophonie si cette écriture dite inclusive est adoptée. Une telle décision aura des répercussions à l'international. L'institution souligne qu'il est déjà difficile d'acquérir une langue. Alors, qu'en sera-t-il si l'usage y ajoute des formes altérées qui la rendent plus illisible? Qu'en pense l'Office québécois de la langue française? L'Office ne s'est pas encore penché sur l'accord de la majorité ni sur l'accord au choix, indique le porte-parole Jean-Pierre Leblanc. Et qu'en est-il de l'accord de proximité? Il n'est pas encouragé, bien qu'il ait déjà existé dans le passé, reconnaît M. Leblanc, parce qu'il demeure marginal pour le moment et qu'il peut entraîner de la confusion lors de l'interprétation de la phrase. Il est important de noter que l'Office québécois de la langue française préconise la rédaction épicène, soit de donner une visibilité égale aux hommes et aux femmes dans les textes, et soit ainsi favoriser la féminisation d'un plus grand nombre d'écrits. Le problème, donc, c'était, et c'est toujours, une règle de grammaire perçue comme injuste à l'endroit des femmes, et la solution, en France, une solution, dis-je bien, en France, des profs cesseront de l'imposer dans les classes de français. Avis de l'experte. Au Québec, cette idée devrait être, point de suspension, adoptée, étudiée, rejetée. L'avis de Pascal Lefrançois, professeur et championne d'orthographe. L'avis de Pascal Lefrançois, professeur et championne du monde d'orthographe. La vice-doyenne aux études de premier cycle de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Pascal Lefrançois, estime qu'il s'agit d'une idée aberrante. Je pense que des combats féministes sont encore nécessaires dans notre société. Mais la grammaire n'est pas le lieu pour mener ces combats. Le genre en grammaire a souvent pour fonction de distinguer les hommes et les femmes, un avocat, une avocate. Mais parfois, il n'a aucune connotation en lien avec le genre, sexe. Pourquoi lune est-il féminin et soleil masculin? En allemand, les noms qui les traduisent sont précisément du genre grammatical opposé. Quand on écrit « la lune et le soleil sont cachés derrière les nuages », aucune lutte homme-femme ne se dissimule sous l'accord de « cacher ». On pourrait d'ailleurs s'amuser à faire de la grammaire une toute autre lecture. Si le féminin consiste en l'ajout d'un « e » au masculin, c'est que le féminin est plus riche et plus complexe, poursuit Mme Lefrançois. Elle reconnaît enfin que la formulation « le masculin l'emporte sur le féminin » suggère peut-être une idée de combat qui n'est pas particulièrement heureuse. On pourrait dire, quand les donneurs d'accords sont de genres différents, l'accord doit se faire au masculin. C'est moins belliqueux. En résumé, je pense que le mouvement féministe a des combats bien plus importants à faire que celui-là. Livre de cuisine, Jamie en 5 ingrédients, on trouve une abondance de livres de cuisine en librairie. Pour aider les lecteurs à faire un bon choix, la presse met à l'épreuve de nouvelles publications, Stéphanie Bérubé. Le chef vedette britannique Jamie Oliver publie en moyenne un livre de cuisine par année. Ça fait beaucoup de volume pour arriver à justifier la sortie d'un nouveau livre. Il mise sur des concepts de plus en plus précis. Plats sains, cuisine familiale, repas en 15 minutes, gastronomie internationale, livre de Noël. Cette fois, on y voit dans le rapide et facile, très facile, 5 ingrédients seulement. C'est pratique, ça ne demande pas un garde-manger très élaboré et Oliver utilise des ingrédients courants qui ne coûtent pas une fortune. L'idée n'est pas mauvaise ni nouvelle par ailleurs, mais le résultat est un peu simpliste. On aime, pour quelqu'un qui commence à se débrouiller en cuisine, l'addition de 5 ingrédients tout simples peut être assez attirante. On aime moins les limites de l'exercice. On sait très bien que certaines recettes auraient gagné à ce qu'on y ajoute ceci ou cela, ce qui n'a pas été fait pour respecter scrupuleusement le concept. On a testé 2 recettes de pâtes et une salade de légumineuses parfaites pour le lunch au bureau. On l'achète? Non, à moins de l'offrir à quelqu'un qui fait ses premiers pas en cuisine et qui ne sera pas gêné de bonifier les recettes au besoin. Alors, nos suggestions, Superfood et Carnet de route, ils se trouvent encore partout et font encore de très beaux cadeaux. À venir, les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux. Fell into the wrong black hole. Now the felonies are magnets on my coat. Afraid to take the fast way home.
covering the shelter of my own shadow. For silver with great alacrity.
Je m'excuse, Matt. Matt Tobolowski et la chanson The Weatherman.
Actualité internationale, victoire historique d'une trans au Parlement de la Virginie en devenant la première personne ouvertement trans à intégrer le Parlement d'un État américain, Danica Roem a bousculé les codes de la politique et illustré la nouvelle acceptation des trans aux États-Unis. J'ai désormais l'occasion de montrer aux habitants de mon troisième district ainsi qu'au reste du monde que les personnes transgenres peuvent être de très bons législateurs, a déclaré hier la femme de 33 ans au terme d'une nuit quasi blanche. Danica, née de sexe masculin et qui a entamé en 2012 sa transition, vers sa véritable identité sexuelle, a créé la surprise en remportant un siège à l'Assemblée générale de la Virginie, État pivot qui a également élu mardi un gouverneur démocrate. Bien que très locale, la campagne électorale de cette ancienne journaliste à la longue chevelure châtain a suscité un très vif intérêt chez les médias américains et internationaux. Le succès de Danica Roem est d'autant plus remarqué qu'elle a détrôné un républicain conservateur et anti-homosexuel, Bob Marshall, qui avait milité pour une loi voulant imposer aux transgenres l'utilisation de toilettes correspondant à leur sexe de naissance. M. Marshall refusait obstinément de désigner son adversaire par le pronom « elle ». La victoire historique de Danica Roem est un avertissement clair adressé dans tout le pays aux législateurs opposés à l'égalité. Voici la fin de l'époque où s'en prenait aux LGBTQ pour effrayer, les électeurs, a dit Chad Griffin, président de l'organisation Human Rights Campaign, en utilisant le sigle désignant les homosexuels, lesbiennes et trans. La capitale indienne New Delhi a ordonné mercredi la fermeture de toutes ses écoles pour le reste de la semaine pour protéger les poumons des enfants dans l'effroyable épisode de pollution en cours. Cette décision est une extension de la fermeture décidée la veille des écoles primaires uniquement. Delhi étouffait mercredi pour une deuxième journée de suite dans un brouillard polluant qui présentait des niveaux dangereux pour la santé. Les épisodes de smog sont récurrents en automne et en hiver à New Delhi, que l'OMS avait classé en 2014 comme ville la plus polluée au monde. Des situations extrêmes comme celles que traverse la mégapole indienne mettent en question la durabilité des modes de vie dans des zones aussi peuplées au moment où l'empreinte de l'humain sur le climat est au cœur de la COP23 qui a lieu en ce moment en Allemagne. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé mercredi la saisie d'une cargaison de 12 tonnes de cocaïne, un record historique pour le pays, premier producteur mondial de cette drogue selon l'ONU. Jamais auparavant, depuis que nous avons commencé il y a plus de 40 ans à lutter contre le narcotrafic, nous n'avions effectué une saisie de cette ampleur, a déclaré le chef de l'État aux journalistes. D'une valeur estimée à environ 360 millions de dollars, la cargaison appartenait au clan d'El Golfo, la principale bande criminelle du pays. Elle a été saisie dans une zone de production de bananes du département d'Antioquia. Le chef du clan d'El Golfo, Dero Antonio Uzuga, alias Otoniel, est actuellement l'homme le plus recherché en Colombie. Le gang est formé d'ex-paramilitaires de milices armées d'extrême droite. Des milliers de passagers et des centaines de camions, en particulier en partance vers la France, étaient bloqués hier soir en Catalogne par des piquets de grève indépendantistes déclenchés pour protester contre l'incarcération de dirigeants séparatistes. Dès le petit matin, les indépendantistes répondant à l'appel à la grève d'une confédération syndicale et d'associations séparatistes ont bloqué des routes, des gares et des sites touristiques. Les manifestants ont notamment bloqué l'autoroute AP7 par où transite une grande partie des exportations espagnoles vers le reste de l'Europe, près de 9000 camions par jour. Les files d'attente se sont étendues sur 6 km dans la province de Gérone, au nord de Barcelone. « Et l'ancien président Barack Obama s'est rendu hier dans un tribunal de sa ville de Châteauguay, répondant comme tout citoyen américain à une convocation pour la sélection de jurés. Mais à la différence des autres personnes tirées au sort sur les listes électorales ou sur le registre des permis de conduire, M. Obama est arrivé dans un cortège d'automobiles, accompagné de gardes du corps et attendu par de nombreux journalistes. Ancien professeur de droit, il a attendu, comme les autres aspirants jurés, de savoir s'il était choisi pour siéger dans un jury au cours d'un procès. Mais il a quitté le tribunal en milieu de journée après avoir été écarté au hasard comme d'autres personnes, a rapporté le quotidien local Chicago Tribune. Les deux chapeaux de Sophie Préjean, c'est un texte de Nathalie Petrovski. Tôt hier matin, il n'y avait qu'un méchant dans l'histoire, le réalisateur télé Sylvain Archambault, objet d'une série d'allégations publiées par la presse et décrivant ses comportements douteux, sinon carrément traumatisants, envers les acteurs sur les plateaux. Humiliation, harcèlement, intimidation, commentaires grossiers et grivois. Attouchement, ce portrait dessiné par une douzaine de témoignages anonymes recueillis par mes collègues Stéphanie Vallet et Katia Gagnon, n'était pas joli. Je le répète, le méchant, tôt hier matin, c'était Sylvain Archambault. Mais un peu après 9 heures hier matin, le méchant a pour ainsi dire été remplacé dans la sphère publique par une méchante, Sophie Préjean, actrice et surtout présidente de l'Union des artistes, UDA, décriée sur les réseaux sociaux, et pas par n'importe qui, décrié par des acteurs en vue comme Marc-André Grondin, Karine Vanasse et Magali Lépine-Blondeau. C'est que ce matin-là, au micro de Paul Arcan, au lieu de prendre le parti des victimes présumées de Sylvain Archambault, Mme Préjean a défendu le réalisateur avec lequel elle a maintes fois travaillé, notamment sur le film « Piché entre ciel et terre » ou plus récemment sur la série « Cheval-serpent ». Je suis habituée à tourner avec Sylvain. « J'ai entièrement confiance en lui », a-t-elle déclaré, tout en notant qu'elle était un très mauvais exemple du fait qu'elle n'avait plus 20 ans et qu'elle ne pouvait donc être sujette au mauvais traitement rapporté par la presse. Argument navrant, s'il en est un. Il n'en fallait pas plus pour que ça se déchaîne sur les réseaux sociaux, ses détracteurs reprochant à la présidente ses conflits d'intérêts et déplorant son manque de sensibilité criant à l'égard des victimes. Ce soir-là, au Franc-Tireur, dans une entrevue enregistrée il y a une semaine, la présidente n'évoquait pas Sylvain Archambault, mais semblait cette fois s'en prendre aux victimes de Salvaille et de Roson. « Moi, quand je suis sortie de l'école de théâtre avec mon physique, je savais qu'on allait me demander de me mettre toute nue. Mais moi, j'avais décidé que j'avais de quoi à dire et qu'on allait me respecter », a-t-elle raconté à un Richard Martineau qui n'a pas pu s'empêcher de lui répliquer. « Êtes-vous en train de me dire que les victimes ont couru après ?» Ce n'était évidemment pas ce que Sophie Préjean voulait dire, mais force est d'admettre qu'elle s'y prenait fichtrement mal pour ne pas le sous-entendre. Entendons-nous sur une chose. Au micro de Paul Arcan et à celui de Richard Martineau, la présidente de l'UDA, n'a pas été à la hauteur du mandat que ses membres lui ont confié en l'élisant. Au lieu de parler à titre de présidente, c'est l'actrice et son expérience personnelle qui ont pris le pas dans les entrevues. Or, on s'en fout éperdument de l'expérience personnelle d'une actrice privilégiée qu'aucun réalisateur ou producteur ne serait assez fou pour humilier ou harceler sur son plateau, sachant qu'elle porte deux chapeaux, et qu'en plus d'incarner des personnages fictifs, elle est aussi, pendant ses heures de bureau, la vraie présidente d'un puissant syndicat. Hier matin, Sophie Préjean a eu le très mauvais réflexe de se mêler dans ses chapeaux. Elle a oublié d'enfermer son actrice là où il se doit, sur les plateaux de tournage. Et par le fait même, elle a oublié que lorsqu'elle s'exprime sur la place publique, elle parle à titre de présidente des milliers de membres de l'UDA qui l'ont élue pour qu'elle les représente et qu'elle défende leurs droits. Personne n'a obligé Sophie Préjean à poser sa candidature pour la présidence de l'UDA. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle le voulait bien et qu'elle avait compris que les intérêts de ses membres passeraient toujours avant ses propres intérêts d'actrice. Du moins, c'est ce qu'on croyait jusqu'à hier matin. Je le répète, Sophie Préjean n'a pas été à la hauteur de son rôle et de son mandat. Elle aurait dû faire preuve d'un peu plus de compassion pour les victimes et aurait dû moins lancer de fleurs à leur possible bourreau. Maintenant, est-ce une raison pour demander sa démission? Pour lui reprocher un conflit d'intérêts qui est pourtant inhérent à la présidence de l'UDA où, de tout temps, ce sont surtout des acteurs qui ont tenu ce rôle? Et si ce sont des acteurs qui ont été élus à la présidence, c'est d'abord parce qu'ils sont les plus nombreux de l'Union. Mais c'est aussi, comme l'a expliqué l'ex-président Pierre Curzi, parce qu'il est toujours bon d'avoir une présidente ou un président qui passe des auditions et travaille sur les plateaux au lieu de rester enfermé entre les quatre murs d'un bureau sans avoir de réel contact avec le milieu de travail. Évidemment, dans le cas précis des plateaux de Sylvain Archambault, on pourra toujours plaider à raison que la présence de la présidente n'a été d'aucun secours puisqu'elle affirme n'avoir été témoin d'aucun des gestes rapportés par les victimes. Hier, plusieurs membres de l'UDA ont protesté et ils ont eu raison de le faire. Aux prochaines élections, ils pourront faire entendre leur voix et leur vote. En attendant, c'est ridicule de demander à Sophie Préjean de démissionner de son poste. Il y a mille raisons pour cela, notamment le guichet unique de plainte et de dénonciation qu'elle travaille à mettre en place et qu'elle prend à cœur, selon certains. Mais s'il n'y avait qu'une raison pour s'opposer à sa démission, elle serait toute simple. Ce n'est pas elle la méchante de l'histoire. Ne déplaçons pas les projecteurs sur celle qui n'a harcelé ni humilié personne. Sophie Préjean porte déjà deux chapeaux. Elle n'en a pas besoin d'un troisième. Et dans le Journal de Montréal, on peut lire « Sophie Préjean réplique aux critiques ». La présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean, a répondu aux critiques formulées à son endroit à la suite de ses réactions aux allégations d'inconduite sexuelle qui visent le réalisateur Sylvain Archambault. Dans une lettre publiée sur le site de l'UDA, Mme Préjean s'adresse à l'acteur Marc-André Grondin qui lui a formulé plusieurs reproches sur Twitter. « Si j'ai dit quelque chose ce matin, mercredi, qui a pu être interprété par vous ou d'autres comme un manque de compassion à l'égard de personnes affectées par le comportement de M. Archambault, je m'en excuse sincèrement », a-t-elle déclaré. Marc-André Grondin a notamment avancé que la présidente de l'UDA s'était mise en situation de conflit d'intérêts en se plaçant à la défense d'un réalisateur au détriment de ses membres. « Ce que j'ai vécu en tant que comédienne ou ce que je n'ai pas vécu n'enlève rien à ce que d'autres ont pu vivre et ressentir », a ajouté Sophie Préjean. « Et cela ne signifie en rien que toutes les choses que je n'ai pas vues ou entendues ne se sont pas produites. » Elle dit avoir partagé son expérience personnelle avec le réalisateur par souci de transparence.
Rien n'a plus d'importance, ta présence me fait oublier. Parfois en défaillance, nos cœurs ne peuvent se diviser. Même si les arts peuvent nous enchaîner, rien n'a plus d'importance, ta présence me fait oublier.
La chronique de Patrick Duquette pour amorcer cette tournée des journaux régionaux. Le droit, le mauvais choix de nez rouge. Chronique quoi, pour vrai? C'est la réaction de stupeur qu'ont eu bien des gens en apprenant que l'ex-Morning Man vedette Daniel Séguin, condamné l'été dernier à 90 jours de prison pour conduite avec facultés affaiblies, avait été nommé ambassadeur de l'opération Nez Rouge en Outaouais. Nez Rouge a comme mission de combattre l'alcool au volant. Et voilà qu'il se choisit comme ambassadeur un gars qui vient tout juste de finir de purger sa peine pour avoir frappé une femme enceinte avec sa voiture, alors qu'il revenait ivre d'une soirée bien arrosée en 2010. Surréaliste, vous dites? Bien sûr que je crois à la réhabilitation. Tout le monde a droit à une seconde chance, y compris Daniel Séguin, qui est tombé d'autant plus haut qu'il était très populaire dans la région. Nez Rouge justifie son choix en disant que Daniel Séguin est la meilleure personne pour sensibiliser les gens aux conséquences parfois tragiques de prendre le volant alors qu'on a trop bu. Et c'est vrai que M. Séguin est très éloquent lorsque vient le temps de décrire à quel point cette soirée fatidique du mois d'août 2010 a eu des conséquences fâcheuses sur sa vie. Encore mercredi, il nous a raconté qu'il n'était plus le même homme depuis cet épisode qui a nuit à sa carrière, à sa vie familiale et brisé sa vie de couple. M. Séguin a l'impression que les médias et le système de justice lui ont fait payer plus cher qu'il ne le méritait le geste qu'il a posé. Et une partie de moi sympathise avec lui. Ce gars-là, à cause de son statut de vedette, a eu un procès plus médiatisé que la moyenne des ours pour un cas d'alcool au volant. Les procédures judiciaires ont duré 7 ans et il a dû apparaître 36 fois en cour et à la fin, le juge lui a quand même asséné une peine de prison qu'il a purgée les fins de semaine. Alors oui, il a payé le prix fort pour son geste. S'il veut se réhabiliter et boucler la boucle, comme il le dit en s'engageant auprès de Nez Rouge, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Ça ne fait pas pour autant de Daniel Séguin un ambassadeur idéal pour Nez Rouge. Pas de la manière dont il a parlé mercredi en tout cas. Comme chaque fois que j'entends Daniel Séguin raconter ses déboires, c'est le peu de cas qu'il fait de sa victime qui me rend mal à l'aise. Dans son allocution en début de conférence de presse, pas une fois M. Séguin n'a fait référence directement à la femme enceinte qu'il a frappée et qui a eu peur de perdre son enfant. Durant la mêlée de presse qui a suivi son discours, il a fallu qu'un journaliste lui pose la question pour qu'il évoque sa victime. Et là, oui, il a été clair. « C'est ma faute ce qui est arrivé ce soir-là », a-t-il admis. Le problème, il est là, dans cet aveu qui vient à la toute fin, dans ces regrets qu'on a l'impression de devoir lui extraire de la bouche. Le problème de l'alcool au volant, c'est qu'il brise des vies. Et ça brise d'abord les vies des victimes qui n'ont pas choisi de se retrouver sur la route d'un gars sous au volant. Si Daniel Séguin avait commencé en exprimant ses regrets d'avoir failli tuer ou blesser quelqu'un, qu'il avait exprimé de la compassion ou un minimum d'intérêt avant d'évoquer ses propres ennuis, je pense que ça passerait. Ça remettrait les choses dans le bon ordre. C'est vrai qu'il y a des victimes des deux côtés dans une affaire comme celle-là, mais il n'a pas exposé les choses ainsi. Au contraire, il a insisté sur ses problèmes avant ceux de la victime. Selon moi, ce n'est pas le message que devrait livrer un ambassadeur de Nez Rouge. Si Nez Rouge avait voulu réussir un coup fumant, elle n'aurait pas créé un, mais 2 postes d'ambassadeur. Sur la tribune, il y aurait eu la femme enceinte à l'époque et Daniel Séguin. Dans cet ordre. Dans le soleil, sous la plume d'Annie Morin, Gélina au carnaval, un mandat très clair de changement. L'ancien directeur général du Festival d'été de Québec, Daniel Gélina, devient le cerveau derrière le renouveau du carnaval de Québec. Il veut ramener le « wow » dans la grande fête hivernale et cible d'abord la clientèle de Québec pour mieux propulser la fête à l'international. Le mandat de consultant accordé aux productions Daniel Gélina Inc. a été confirmé mercredi par le président du conseil d'administration du Carnaval de Québec, Alain April. Le mandat de Daniel n'est pas de sauver le carnaval, car comme vous le savez, le carnaval n'est pas en péril et nous avons déjà parcouru une partie importante du chemin pour le consolider et lui donner de l'aplomb, a déclaré M. April. Il a plutôt parlé d'établir un plan d'avenir pour assurer la pérennité de l'événement, le mettre au goût du jour. Daniel Gélinas a dit intégrer l'équipe du carnaval avec le désir de faire rayonner la plus grande fête hivernale au Canada. Pour cela, il est convaincu qu'il faut d'abord aller chercher l'adhésion complète du public de Québec, le public numéro un dont le carnaval a besoin pour grandir. Ça fait la une du Soleil d'aujourd'hui, le nouveau visage du Parlement, Patricia Cloutier, plus moderne, plus sécuritaire et plus accueillante. C'est ce que souhaite devenir l'Assemblée nationale du Québec avec des travaux de 60,5 millions qui sont actuellement à 40 % complétés. Pour la première fois, les médias ont pu visiter le chantier du nouveau pavillon d'accueil qui ouvrira ses portes au printemps 2019. Incursion dans le dédale souterrain situé devant l'entrée principale de l'hôtel du Parlement de Québec. Au lieu d'attendre dehors et d'entrer par une porte latérale, les visiteurs pourront dorénavant passer par devant sous les grands escaliers. Ils auront accès à une salle d'attente tout en transparence qui les mènera aux guérites de sécurité semblables à celles d'un aéroport. La visite sera gratuite. Objets de musée, mosaïques interactives présentant tous les députés, boutiques souvenirs agrandis, films sur la démocratie québécoise, l'Assemblée nationale se dote d'espace pour faire vivre une expérience pédagogique. Une pente en spirale fait atterrir le visiteur dans une agora centrale où, s'il lève la tête, il aperçoit la tour centrale de l'Assemblée nationale à travers un immense puits de lumière. C'est tout pour les voix de service quotidiennes de ce 9 novembre. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Mathieu Tessier au choix musical et à la régie. Et quant à moi, Hélène Denis, ben, je vous souhaite une bien belle journée. Puis j'espère vous retrouver dans quelques secondes si vous nous écoutez en direct. J'anime les Paractualités. À bientôt.